Il est présentement 15 heures. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville en compagnie de Patrick Assikian pour la prochaine heure pour l'émission État de Splendeur, émission qui traite de la culture patrimoniale et d'avant-garde à travers les différentes régions du Québec. Bonjour et bienvenue à l'émission État de Splendeur. En cette émission du 1er octobre 2012, après une absence de quelques semaines, nous revenons donc en force avec une émission qui est dédiée cette fois-ci à un produit de la saison, étant donné qu'on est le 1er octobre, on est en plein cœur de l'automne. Automne, aussi synonyme de saison des récoltes, et qui dit saison des récoltes dit vendange aussi. Donc, étant donné qu'on est en plein milieu de la période où on met en bouteille, l'émission d'aujourd'hui est dédiée au vin et son histoire, sa consommation et son actualité. Donc, tel est le sujet aujourd'hui. Et puis, en ce 1er octobre aussi, c'est une émission qui va faire... c'est en fait une répétition d'une émission annuelle. Chaque année, on fait cette émission dédiée sur le vin, un bref sommaire historique ainsi que un peu d'actualité. Et puis, donc, pour cette édition 2012, on est un tout petit peu après la fête des vendanges qui s'est déroulée début septembre dans le coin de Magog, qui est un peu l'épicentre de la culture du vin au Québec. Et puis donc, voilà le sujet de l'émission aujourd'hui. Sur les ondes de Radio Centre-Ville à État de Splendeur. Donc, émission du 1er octobre 2012, aujourd'hui à État du Splendeur, le vin. Avant de débuter, quelques petites actualités. Le numéro 2 de l'édition du magazine en ligne État du Splendeur est prévu pour dans approximativement 6 semaines. Et puis d'ici là, nous annonçons que il y aura un concours et un tirage et sera lancé en tirage un coffret de différentes tisanes inuites de la gracieuseté de Délice Boréale. Donc, si vous allez sur Facebook, si jamais vous y êtes, prenez la peine de visiter notre page qui est État du Splendeur. C'est ce qui s'écrit E-T-A-T-S-D-E-S-P-L-E-N-D-E-U-R. Et puis, prenez la peine de nous aimer. Et parmi nos nouveaux amateurs, nous allons faire tirer 2 coffrets de ces délicieuses tisanes inuites de Délice Boréale d'ici au lancement du 2e numéro de notre magazine en ligne qu'est État du Splendeur. Donc, aujourd'hui, le vin. Alors, retour en arrière. Évidemment, on ne va pas faire un historique du vin en tant que tel, puisque ça prendrait une bonne vingtaine, voire une cinquantaine d'émissions pour voir le sujet de manière exhaustive. Non, on va plutôt s'attarder à la brève histoire du vin au Québec, hein, ce qui est déjà énorme et il a fallu faire une synthèse. Évidemment, on ne peut pas élaborer tous les aspects de l'historique de la culture du vin au Québec. Mais comme vous allez voir, la culture du vin au Québec a eu beaucoup de difficultés, donc elle est assez brève et c'est donc relativement facile d'en faire un sommaire. Première expérience reliée au vin au Québec, du moins première expérience qui a été enregistrée par l'histoire, puisqu'il y a fort probablement eu des expériences avec les premiers habitants du Québec. Mais première expérience enregistrée nous vient de l'époque de Jacques Cartier. Oui, déjà à l'époque de Jacques Cartier, ce dernier s'était attardé sur le territoire de l'île qu'on appelle aujourd'hui l'île d'Orléans. Et puis, comme bon nombre de personnes savent, il est resté stupéfait par le nombre de vignes qu'il y avait sur l'île d'Orléans, des vignes sauvages qui n'avaient rien du tout de vignes conventionnelles. Et puis donc, par conséquent, il a décidé d'appeler l'île d'Orléans l'île de Bacchus, en honneur du dieu du vin. Et puis, on a essayé de vinifier ce vin par la suite. Ça, c'était plus sous le règne de Jacques Cartier, mais plutôt autour des années 1600. On a essayé de faire du vin avec les vignes indigènes présentes à l'île de Bacchus. Mais bien qu'on ait réussi à faire un vin buvable, selon les documents de l'époque, il s'agissait d'un vin très âcre. Et c'est un vin qui aussi, semblerait-il, tachait énormément. Et étant donné que c'est des raisins qui donnent très peu de jus, c'est pour ça que le vin était donc très concentré. C'est un vin, évidemment, la grosse majorité des vins à l'époque, fallait rajouter de l'eau dedans. C'est seulement les meilleurs des meilleurs vins qu'on pouvait boire sans mettre de l'eau dedans. D'où l'expression « mettre de l'eau dans son vin ». Et puis donc, autour des années 1700, ces expériences avec les vignes indigènes n'étant très peu concluantes, on a décidé d'importer des vignes françaises. Et puis, donc, ces pieds de vigne venaient d'un climat qui était un petit peu plus clément que le Québec, surtout avec les hivers rigoureux qu'il y avait à l'époque en Nouvelle-France. Et donc, on a importé les vignes. Ils ont peut-être survécu quelques années, mais à la longue, les hivers ont fini par avoir raison de ces pieds de vigne qui ont été transplantés sans trop de succès. Il y a eu quelques petites expérimentations, mais rien de concluant. Et aucune critique d'un échantillon produit nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc pour cette raison que, sous le régime français, on a dû se rabattre vers l'importation du vin. Alors évidemment, étant donné que le vin était une denrée importée, ça a augmenté le coût. Et puis c'est pour cela que les colons se sont rabattus sur la bière et le cidre, ainsi que sur différents vins de petits fruits, des vins de gadelle, des vins de groseille, etc. Et puis, étant donné que le vin était plutôt réservé à la haute société en Nouvelle-France ou à l'élite, étant donné son coût prohibitif, c'est là que s'est développé tout un savoir-faire. Les colons ont réussi à tirer leur épingle du jeu en adoptant les petites baies, les différents fruits sauvages qu'on retrouve dans nos forêts et dans nos bosquets. Et ils ont fait des vins de petits fruits, comme je venais de le dire. Et c'est là d'où origine une bonne partie des recettes de grand-mère pour des vins de petits fruits de nos campagnes. Donc, ça puise quand même dans un savoir-faire qui est là depuis très longtemps, qui s'est développé de manière peu empirique, soit, mais quand même, il y a un certain savoir-faire du côté des vins et différentes boissons artisanales de petits fruits sauvages au Québec. À la même époque, on a aussi importé beaucoup de rhum de Saint-Domingue. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelait Haïti. Et de la Martinique aussi, qui faisait partie des colonies françaises. Autour de 1700, quand même, en France, même si le vin qu'on consommait était essentiellement, pour la très bonne partie, importé, on importait quand même entre 2000 et 4000 tonneaux de vin par année, ce qui représente quand même une forte proportion. Là. C'est assez énorme. À l'époque, le cidre était fort populaire aussi. On a eu les premiers vergers implantés en Amérique. Et puis c'était très populaire, mais malheureusement le cidre et tout ce savoir-faire et même les variétés de pommes qui existaient, parce qu'il y avait des variétés de pommes de couteau qu'on peut croquer comme ça, comme des fruits, mais il y avait aussi des variétés de pommes destinées à la cidrification, et puis au fil des années ces variétés-là se sont perdues malheureusement. Mais quoique tendent à être ressuscités aujourd'hui avec certains domaines comme le domaine de Pinacle qui essaye de cidrifier des anciennes variétés de pommes qui se sont naturalisées dans la forêt. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de cidre. Dans tous les cas, le cidre, sa consommation malheureusement a chuté à partir de la conquête britannique. Et en Nouvelle-France, c'était surtout les Sulpiciens et les Jésuites qui s'occupaient de la viticulture, parce qu'ils ont fait des essais relativement petits, mais ils ont quand même fait des essais sur la viticulture dans différents territoires au Québec, principalement autour de Montréal et autour de la ville de Québec. Et puis, donc les Sulpiciens et les Jésuites ont fait des petites productions au niveau de la viticulture. Et puis... C'est rien de concluant là non plus, mais quand même, il y a un certain savoir-faire qui s'est développé à cette époque. On fait une brève pause musicale, et puis tout de suite après, on revient pour résumer ce bref historique du vin au Québec, dans le cadre de l'émission État de splendeur, sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et nous allons donc maintenant écouter une petite pièce de Gilbert Bécaud.
Okay. qui est seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié. Un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Pose-le là, sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok. Ok. Bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête. Ah mais cela, faut pas les louper. Et toi, ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là, sur la table. Laisse crever, laisse crever. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok. Ok.
Et voilà, c'était classique de Gilbert Bécaud. Aujourd'hui, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, en compagnie de Patrick Assikian et à l'émission État de Splendeur. Nous faisons une brève synthèse de l'histoire du vin au Québec. Et puis, nous étions rendus à l'époque de, ben, autour de la fin de la Nouvelle-France. Et puis, ben, les sulpiciens et les jésuites étaient ceux qui s'occupaient principalement des différentes expérimentations qui se faisaient au niveau de la viticulture, puisqu'il y avait différentes vignes qui étaient cultivées de manière restreinte à l'époque. Si on prend une année typique, 1739, en 1739, on a importé 775 166 bouteilles de vin en Nouvelle-France, ce qui est quand même, c'est par les standards d'aujourd'hui, peut-être une petite quantité, mais considérant la population de la Nouvelle-France à l'époque, si on fait le calcul, ça nous amène à 32 litres par personne par année, et ce qui est quand même supérieur à la consommation de vin au Québec par personne qu'on trouvait en 1992. Donc, la culture du vin était quand même bien implantée vers la fin de la Nouvelle-France. Il y avait quand même un bon apport d'importation et quand même un savoir-faire du maquis, sachant faire différents vins artisanaux et cidres. La conquête, malheureusement, a sonné le glas de tout cela. Hein, et malheureusement favorisé l'importation, surtout les directives à cette époque étaient de favoriser l'importation anglaise de spiritueux en provenance de l'Empire britannique, tel le gin. Et puis donc, il y a une directive qui visait un peu à décourager la production locale, l'autoproduction de biens et de denrées tels que le vin et le cidre a été fortement découragé. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucun permis qui a été émis à ce sujet. Et c'est à cause de ça qu'il y avait comme une espèce de flou législatif qui faisait de sorte que c'était pas techniquement interdit, mais c'était pas permis non plus. Donc, ça a été relégué à la production dans le maquis, comme je l'appelle. C'est une production familiale très très locale et à très très petite échelle et en faveur de l'importation de produits de l'Empire britannique. Bon, c'est là que le gin s'est implanté. On importait aussi du rhum. C'est aussi à cette époque qu'on a autorisé une production locale de bière, la bière étant plus l'apanage de l'Empire britannique, quoique la première brasserie en Amérique du Nord a été implantée par Jean Talon. Mais néanmoins, la production locale a été permise pour la bière pour certaines brasseries, dont la fameuse brasserie Molson, évidemment, ainsi que la brasserie défunte Dow, qui était assez instrumentale dans la diffusion de la culture de la bière au Québec. Donc, à cette époque, et depuis autour de 1760, la conquête, la viticulture est un peu mise en veille. Hein? C'est un peu une période de tranquille pour le vin au Québec. Et bon, on avance plus d'un siècle, et puis ensuite, on peut s'apercevoir qu'il y a eu une initiative qui nous provenait du côté du gouvernement du Québec. Alors, en 1864, le gouvernement du Québec a décidé de favoriser la viticulture et la vinification au Québec et donc a lancé des vignobles expérimentaux avec certains cépages. Ils ont fait des hybrides, ils ont utilisé des cépages américains et puis ils les ont sélectionnés pour que ça soit possible de les faire perdurer dans notre climat septentrional. Et puis, donc, autour de Québec, ça s'est fait. Et, l'effort n'a pas été assez soutenu, faute de fonds et d'initiatives politiques aussi. Ça a cessé après quelques années. C'est sûr que ça a pu durer plus qu'un an, mais ça prend quand même plusieurs années avant qu'une vigne produise un raisin digne de faire du vin. On ne peut pas faire du vin avec des raisins issus d'un très très jeune pied de vigne. En fait, même que plus qu'une vigne vieillit, pour le vin rouge du moins, plus qu'elle devient tannique et plus que ça fait un jus qui est noble, si on veut, et qui se prête de mieux en mieux à la vinification. Donc, cette initiative au niveau de la viticulture, n'a pas eu de suite, mais est restée un savoir-faire populaire, clandestin, local, tournant autour, comme je disais précédemment, du cidre et des vins de petits fruits sauvages. Donc, c'est sûr qu'il y a eu ce savoir-faire-là, des petites boissons artisanales qu'on faisait, ou des grandes, c'est selon. Mais la consommation de vin à cette époque a vraiment chuté de manière dramatique. Là. On se consommait à peu près autant de vin que pays n'ayant jamais connu la culture du vin, comme c'était pourtant le cas. Et donc, la production de vin devient absente. Elle devient absente, sauf pour la production industrielle vraiment bas de gamme, là, du type vin de reconstitué. Vin industriel fait avec n'importe quel raisin qu'on met ensemble et on fait un gros vin digne de faire de la cuisson à la limite. Et puis c'est resté comme ça jusqu'en 1970, puisque toujours dans le cadre du même flou législatif, il n'y a pas eu de permis qui a autorisé la production de vin artisanal ou même de cidre jusque dans les années 70. Donc, c'est une situation qui n'a pas tout à fait favorisé le savoir-faire et la mise en valeur des différents terroirs au Québec. Bon, c'est encore l'heure d'une brève pause musicale. Et puis au retour, on va voir quand est-ce que le vin et sa culture a été ressuscité. Il va falloir attendre jusqu'aux années 70 pour ça. Et c'est ce qu'on va voir juste après cette brève pièce de Félix Leclerc intitulée « L'ancêtre ».
Chanson presque neuve, l'ancêtre. Avec un air nouveau, sorti du fond des âges, et son petit chapeau sur sa tête de roi mage, tout guilleret et beau, le voilà sur ma page, fier de chanter bien haut, d'où il vient. Sans bagage comme le vent du large, ses traces disparues. On l'a peut-être vu à Rome ou à Dieppe, il y a deux ou trois siècles, ou en Andalousie ou Mésopotamie. C'était bien rien pour lui de se dire fils de Noé. Il s'appelait Léo et peut-être Émilien. Un peu de sang latin, pourtant des cheveux blonds et des yeux verts banquise, donc il était du nord. Il était minuit cinq quand il a touché terre. Un hiver, c'est beau la terre, c'est grand la terre, c'est bon la terre. McDonald ou Herman, ou peut-être Charlemagne, il avait mille noms. Se bâtit de cabane, attendit le printemps. Une femme se coucha, ensemencée par lui. Le cuir, le lait, le tabac. Il a touché à tout avant de savoir lire. Touché à l'eau, à l'ours, à l'odeur, à la nuit. Le jardin était pur, les attelages magnifiques. Mais d'Éric Dominique, 42 fils uniques. L'océan dans les criques, une boutique à musique. Et des tics plein la peau, des écorchures au dos. Les saisons sont les filles des montagnes éternelles. Grenier, moisson, décor à faire rêver les rois. Et alors, du dehors, la misère et la guerre. Il remonte à la côte, le courage, la faute. Toujours recommencer, le pont toujours tombé. Aux enfants nouveau-nés, ses racines, sa force. Après tant, tant d'années, au vent roule l'écorce. C'est beau la vie, cadeau suprême, je viens de lui. Ma robe pleine de trous, à genoux ou debout, comme un loup de légende. Quand je suis délaissé, je pense que je viens de lui. Et ma douleur s'enfuit pour cette vie. Merci Léo ou Émilien. La vaisselle est lavée, la lune va se lever. Ma femme dort, je vais dehors, encore viendra l'aurore. Les morts, c'est pas notre pays, à l'ancêtre et à moi. Puisque moi, je suis là avec des fils. Pareil à lui.
Et voilà, c'était la pièce L'ancêtre de notre cher Félix Leclerc. Aujourd'hui, à l'émission Étant de Splendeur, vous êtes toujours en compagnie de Patrick Assikian jusqu'à 16h. Et on voit aujourd'hui l'histoire du vin. C'est une émission annuelle qu'on fait, toujours à la période des récoltes. Et puis, donc, nous avons vu c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-France, ce qui s'est passé à l'époque coloniale. Et puis, on a vu qu'il y a eu comme une espèce de flou législatif qui n'a jamais réglementé tout à fait la production de cidre ou de vin au Québec. Ça, c'est un héritage d'une initiative de la couronne à l'époque qui voulait plutôt importer des produits de l'Empire britannique et non pas favoriser un marché local, à part pour certaines concessions qui avaient été données aux brasseries Molson et Dow, par exemple, pour la bière. Donc, c'est encore pour ça qu'aujourd'hui, si on rentre dans n'importe quel dépanneur, dans n'importe quel village, on trouve toute une panoplie de bières, mais absolument aucun vin produit au Québec. C'est sauf exception. Et puis souvent, il ne s'agit pas d'un très bon ambassadeur de notre potentiel de vignoble ou de vigneron ou de vinification au Québec. Donc, ça, c'est à cause d'une espèce de problème législatif qui a... C'est une dichotomie, une différence qu'il y a entre le permis artisanal et le permis industriel. Pour pouvoir vendre son vin dans un dépanneur au Québec, il faut se doter d'un permis industriel au coût prohibitif. Et puis, pour pouvoir vendre sa bière dans un dépanneur au Québec, ça prend simplement un permis artisanal au prix... moindre, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, le producteur de vin, le producteur de cidre ou de toute autre boisson artisanale a les bâtons dans les roues pour pouvoir rejoindre le public à la grande faveur de la bière qui malheureusement, bien qu'on a un très bon savoir-faire en termes de bière, mais la bière, c'est comme comparativement relativement facile à faire et puis c'est une boisson qui est relativement rapide. Et c'est dommage puisqu'on a quand même un bon savoir-faire en termes de vin et toute une côte à grimper pour pouvoir augmenter la visibilité de nos vins. Donc, il y a eu un certain flou réglementaire jusqu'aux années 70 où là, le gouvernement du Québec décide de réglementer cette espèce de flou pour finalement ressusciter la production de cidre au Québec et de vin. Et puis, bon, c'est une première étape, mais ça n'a jamais vraiment donné des très bons résultats. Ça a donné des produits grossièrement faits, faits de manière grossière plutôt, et puis sans aucune finesse. On ne citera pas les exemples, là. Mais dans tous les cas, on va revenir sur ce sujet la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, le sujet est un peu identique, sauf qu'on parle du cidre. Donc, la semaine prochaine, le cidre. Donc, toujours pour revenir à cette initiative, dans les années 70, on a essayé d'encourager un peu l'autoproduction, mais rien de vraiment concluant. Au niveau du vin, il n'existait toujours pas de permis artisanal de production de vin. Il y avait seulement des productions pour des grosses productions industrielles de style Paul Masson, genre vin reconstitué au goût atroce et digne de laver les planchers. Mais en 1980, on a eu la grande chance de voir apparaître un pionnier au Québec. Un pionnier, bizarrement, tant pour le domaine du cidre que pour le domaine du vin. Mais en premier, il s'est démarqué. Il nous a tracé des nouveaux sentiers, hors des sentiers battus, au niveau du vin. Il s'agit de M. Christian Berthomeuf, un véritable pilier pour le vin au Québec. Donc, en 1980, Christian Berthomeuf et Jacques Brault, qui sont déjà des viticulteurs et cultivaient la vigne depuis un certain temps dans le coin de Denham, vont chercher plus de vignes en Ontario et puis établissent de manière permanente le premier vignoble du Québec encore en activité aujourd'hui. Il s'agit du vignoble Les Côtes d'Ardoise. Les Côtes d'Ardoise, ça, c'est dans le sud-ouest du Québec, en Montérégie. Et puis encore aujourd'hui, la Montérégie, c'est la région qui produit le plus de vin au Québec. C'est pas exclusivement la seule qui est digne de produire du vin. Hein. On en produit quand même pas mal dans les Basses-Laurentides, on a produit dans la région de Québec et on en produit aussi en Estrie, notamment. Mais là aussi, il y a d'autres zones qui sont en train d'être expérimentées présentement, comme le fameux Témiscamingue, une zone très, très, très fertile, souvent oubliée au profit de l'Abitibi, qui prend toute la place. Mais malheureusement, c'est encore une région méconnue à cause du fait qu'elle n'est accessible qu'en passant par l'Ontario. Il n'y a encore aucune autoroute qui, par le sud du Québec, accède directement au Témiscamingue et à Ville-Marie, son chef-lieu. Donc, sachez quand même qu'il y a présentement des expérimentations et des résultats quand même concluants au niveau du vin dans cette sous-région qui a des microclimats très favorables pour le vin. De retour aux Côtes d'Ardoise, en Montérégie, Ce vignoble a quand même produit des vins assez intéressants. En 1984, il a été acheté par un certain Jacques Papillon, mais le vignoble a toujours continué ses activités avec la même direction et la même éthique, et donc ce qui en fait aujourd'hui le plus ancien vignoble encore en activité au Québec. Pour pouvoir réussir comme ça, il a vraiment fallu qu'ils sautent quelques haies dans cette course à la réglementation, puisqu'ils ont commencé complètement illégalement, puisqu'il n'y avait pas encore de permis pouvant être octroyé à des domaines, des petits domaines particuliers. Des vins mis en bouteille au domaine, au Québec, ça n'existait pas. Là. Il n'y avait aucun permis donné pour de telles activités. Et étant donné que Christian Barthomeuf était quand même un vigneron tout à fait respectable, il a persisté et signé. Et de fil en aiguille, c'est grâce à une femme qui était l'éditrice à l'époque, dans les années 80, de la revue La Barrique, revue qui traite du vin au Québec. Et ils ont su comment, finalement, arranger une rencontre avec des membres du gouvernement, dont le PDG de la SAQ à l'époque, et pour qu'ils puissent venir voir que c'était possible de faire un vignoble artisanal au Québec et d'embouteiller sur le domaine avec une production exclusive du domaine. Donc, l'entreprise étant à l'époque illégale, les représentants du gouvernement et puis les représentants de la SAQ sont arrivés en voiture incognito, là, et puis ils sont pas restés très très longtemps parce qu'ils voulaient pas être repérés sur les lieux d'une opération qui était à l'époque interdite. Donc ils ont quand même été sur place, et puis on leur a fait visiter le domaine, ils ont vu que ça opérait d'une manière très 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 respectable. Et puis, à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que le vin produit était en fait était buvable, était même très bon. Donc, c'est ainsi qu'ils ont su comment offrir le premier permis de production de vin au Québec. Et puis, c'est grâce au travail de Christian Barthomeuf, individu dont on va reciter le nom à l'émission de la semaine prochaine, puisque État du Splendeur traite du cidre la semaine prochaine. Un autre vignoble qui est digne de mention quand même, c'est... il est encore en activité, ce qui en fait le deuxième plus ancien au Québec. Il a été installé juste quelques années plus tard. C'est le vignoble de l'Orpailleur, qui est sans doute le plus connu présentement. C'est en 1982, Hervé Durand et Charles-Henri de Coussergues, ces deux vignerons français qui ont décidé d'implanter leur production en Montérégie également. Et Charles-Henri de Coussergues est l'actuel président de l'Association des vignerons du Québec. Et puis ce vignoble a quand même gagné de nombreux prix, donc il est vraiment digne de mention, des prix internationaux. Ce qui a fait de sorte qu'à l'aveuglette, il y a des vins produits par le vignoble de l'Orpailleur qui ont pu frayer avec des vins français et puis être considérés comme tout à fait respectables. Surtout pour les vins blancs, hein, que le vignoble de l'Orpailleur s'est démarqué. Et puis maintenant aussi pour les vins de glace. C'est le savoir-faire qui est de plus en plus harnaché par les vignerons du Québec. Et donc, jusqu'à tout récemment, le vignoble de l'Orpailleur avait les plus vieilles vignes du Québec. Et puis malheureusement, elles ont été remplacées à la fin des années 2000, puisqu'il y a certaines tendances dans le monde du vin qui vise à ne plus garder très très longtemps les cèpes de vignes. Il y a différentes écoles de pensée à ce sujet. Moi, je préfère garder les vignes plus longtemps parce que ça fait des vignes tanniques, mais bon, ça dépend des écoles de pensée au niveau de la viticulture. Et je ne suis pas viticulteur, donc je ne prononcerai pas plus là-dessus. On a tout juste le temps de faire une dernière pause musicale. Et donc, voici encore une autre pièce de Gilbert Bécaud.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir dans
l'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.
Et puis oui, je n'ai pu m'empêcher de mettre ce classique qui a joué très souvent, mais qui n'a pas joué assez souvent quand même. Donc c'était La Rose de Gilbert Bécaud, pour ceux qui avaient pas qui s'en étaient pas rendu compte. Nous discutons et nous terminons l'émission qui traite de l'histoire du vin au Québec. Et puis vous êtes toujours sur Radio Centre-Ville, en compagnie de Patrick Assikian à l'émission État de splendeur. Et on est arrivé à la fin de notre périple, puisque le périple cesse avec le dernier point tournant important de l'histoire du vin au Québec, c'est l'implantation du premier vignoble où on mettait en bouteille sur le domaine. Et puis il s'agit du domaine des Côtes d'Ardoise en Montérégie, qui a été fondé par Christian Bartomeuf, un pilier de la culture du vin au Québec. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu quand même un certain avancement du dossier. La consommation du vin au Québec, depuis cette époque, n'a cessé d'augmenter, puisque c'est peut-être un baromètre important que la production de vin. Et puis, on a vu que donc la consommation du vin grimpe en flèche au Québec, surtout pour le vin rouge. Et puis, avec peut-être même l'espoir de déloger la bière dans quelques années si la tendance se maintient. On prend par exemple l'année 1992. 1992, la consommation de vin avait déjà commencé à augmenter. Si on prend comme 1982, par exemple, la consommation de vin était beaucoup moins grande à l'époque. Donc, 1992... la courbe ascendante a déjà commencé. Et de 1992 à 2010, la consommation de vin au Québec a augmenté de 50 à 60% au Québec. Ce qui est quand même pas négligeable. Et puis, si on prend une autre année, bon, on revient en 2001, il s'est vendu 95 millions de litres de vin au Québec, ce qui est quand même relativement respectable par des standards nord-américains. Et en 2010, on a vendu 142 millions de litres de vin au Québec, ce qui est une augmentation quand même fulgurante. Et si ça continue, le vin va reprendre sa pole position au Québec en tant que boisson et puis reprendre la place qui lui revient, à mon avis. Donc, la production du vin, par contre, n'a pas eu un boom aussi marqué, mais c'est à cause de la réglementation, malheureusement, de la RACJ en ce moment, qui ne favorise pas tout à fait la production locale de vin. Il y a quand même eu un boom en 1999. Jusque-là, quand on a un permis de production artisanale de vin, on a seulement le droit de vendre son vin chez soi, sur son domaine. Et puis en 1999, pour la première fois, le gouvernement autorise la vente de vin fait avec un permis artisanal dans des marchés publics. Ce qui est quand même un pas en avant, même si les producteurs de bières artisanaux, eux, ont déjà le droit de vendre dans des dépanneurs. C'est une aberration, mais ça tend à s'estomper. Donc, pour la première fois, en 1999, on voit des établissements tels la Maison des vins et boissons artisanales apparaître. C'est une initiative de Tony Drouin et Suzanne Bergeron. Et ont décidé de regrouper différents vins faits à travers le Québec sous une même bannière. Et on pouvait, à partir de ce moment-là, trouver des vins québécois au marché Atwater, au marché Maisonneuve, au marché Jean Talon. Et le vin du Québec avait le vent dans les voiles. Et la production de vin au Québec également, étant donné que la visibilité du produit, ça favorise l'adoption du produit par le public. Et le public est avide d'encourager les petites productions, les petits producteurs, les productrices de boissons artisanales au Québec. Et puis finalement, c'est cette bannière-là qui a fini par donner naissance au marché des saveurs du Québec et puis à la maison des vins et boissons artisanales actuelles qu'on retrouve au marché Jean Talon. Mais malheureusement, il y a eu un certain boom, un paroxysme de la production de vin au Québec autour de 2004, puisqu'en 2004, il y a eu une grève à la SAQ. Et puis, il y avait des tracts qui étaient distribués par les employés à l'entrée des portes, leur disant d'aller acheter des vins québécois dans les marchés publics. Alors, il y a eu un immense boom pour les vins québécois. Et puis, malheureusement, l'année suivante, en 2005, il y a eu une réinterdiction de vente de vins et de boissons artisanales du Québec dans les marchés publics. Donc, retour à la case départ, les producteurs de vins artisanaux ont seulement le droit de vendre dans leur petit village, sur leur domaine. Alors, ce qui ne favorise pas tout à fait la visibilité du produit et disons que pour le marketing, c'est pas tout à fait une bonne nouvelle. Et puis, au fil de négociations, de pressions et puis de différents balais et gymnastiques, on a réussi à réoctroyer un droit, mais c'est pas exactement un droit. C'est toujours interdit au moment où on se parle pour les producteurs de vins et boissons artisanales de vendre leur vin dans des marchés publics à moins d'avoir leur propre kiosque. S'ils ont leur propre kiosque, s'ils achètent leur propre kiosque, ils ont techniquement le droit de se représenter dans des marchés publics. Mais les petits producteurs de vin, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un permis industriel pour pouvoir vendre leur vin dans les dépanneurs, ils n'ont pas tout le temps les moyens de se payer un kiosque souvent à prix très élevé dans différents marchés publics à travers le Québec. Donc, ce qui est un peu une aberration. Ça favorise toujours pas du tout la diffusion des vins du Québec et leur adoption par le public au Québec. Mais quand même, il y a eu deux établissements qui aujourd'hui ont un droit acquis, dont on a permis la continuité. C'est le comptoir des terroirs au marché du Vieux-Port à Québec. Là-bas, on peut retrouver un certain regroupement de différentes boissons artisanales du Québec et vins notamment. Et évidemment, au marché Jean Talon, au marché des saveurs du Québec, ou plus précisément à la maison des vins et boissons artisanales, là, on peut retrouver aussi une sélection respectable de vins québécois. C'est à partir d'endroits comme ça, souvent, que le marché se développe et puis on peut favoriser des vins de plus en plus soignés, puisque les gens peuvent de plus en plus miser sur la qualité des vins au fur et à mesure qu'ils sont adoptés par le public. Hein. Donc, c'est à souhaiter que ce type d'activité continue et puis que le flou réglementaire ou plutôt le caractère contraignant de la réglementation actuelle au niveau des vins artisanaux et des cidres, etc., et des boissons artisanales puisse être modifié pour qu'on puisse, au même titre que la bière, vendre nos produits dans des commerces de détail avec un permis de production artisanale de vin ou de boissons artisanales. Et puis donc ça, c'est le dernier développement à changer, mais il y a quand même des bonnes nouvelles aussi. Si on regarde du côté des produits de niche, il y a certains produits de niche comme le vin de glace. Le vin de glace a longtemps été l'apanage des pays germaniques, l'Autriche, l'Allemagne, etc. C'est un vin qui est récolté tardivement et dont le gel concentre les sucres dans le fruit, ce qui donne un produit quand même assez liquoreux et très, très prisé par plusieurs personnes. Au Niagara canadien, du côté de l'Ontario, on a connu un engouement pour le vin de glace puisqu'il a gagné de nombreux prix internationalement depuis le début des années 2000 et même la fin des années 90. Sauf que le vin de glace est fait au Québec aussi depuis fort longtemps et n'a pas connu la même visibilité, malheureusement, puisque il y a une certaine volonté politique de diffusion des vins en Ontario qui n'a pas exactement son équivalent au Québec. Quoique ça reste à espérer quand même. Et récemment, il y a eu une percée qui a été faite par certains producteurs de vins de glace du Québec, ce qui a favorisé la visibilité des producteurs du Québec à l'étranger. Il y a le célèbre concours des Vinali à Paris. Dans l'édition de 2009, il y a eu le domaine de la rivière du Chêne à Saint-Eustache qui a gagné la médaille d'or. Donc le concours international des Vinali à Paris est parcouru par des représentants et des acheteurs à travers le monde. Et puis cette médaille d'or a vraiment valu de l'attention de la part des restaurateurs du monde entier pour la production de vin de glace du Québec. Et puis c'est ainsi qu'on a déjà envoyé plus de 5000 bouteilles en Chine, où il y a un grand marché pour les cadeaux corporatifs. Et puis les Chinois ont quand même un certain palais sucré, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Même s'ils n'ont pas la culture du dessert et tout ça, ils apprécient les produits occidentaux qui sont dans cette lignée-là. Donc le vin de glace tombe tout à fait dans leur corde. Et puis c'est depuis quelques années seulement que le marché chinois des vins de glace commence à s'ouvrir à l'appellation de, ben pas à l'appellation, mais au vin de glace québécois, ce qui est une très très bonne nouvelle puisque l'exportation est vraiment une création de nouvelles richesses. Donc c'est là que ça commence à devenir très intéressant. Et sans mentionner le fait que le cidre de glace lui aussi est de plus en plus présent en Chine, le plus fort marché en croissance du monde, donc c'est aussi des bonnes nouvelles. Mais nous ne parlerons pas de cidre aujourd'hui puisque c'est la semaine prochaine qu'on va dédier l'émission au cidre. Donc lundi prochain, toujours de 15h à 16h, vous serez en compagnie de moi-même, Patrick Assikian, à l'émission État de splendeur pour discuter brièvement d'une synthèse de l'histoire du cidre au Québec et de son actualité. J'espère que vous avez apprécié l'émission. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur notre site web étatdesplendeur.com, étatdesplendeur.com, et aussi prenez la peine d'aimer notre page Facebook, c'est facebook.com/état de splendeur. Et puis les nouveaux adeptes de notre page d'ailleurs courent la chance de gagner un magnifique coffret de tisane inuit gracieuseté de Délices Boréales d'ici à la publication de notre prochaine édition de notre magazine en ligne. Donc, c'est Patrick Assikian qui vous souhaite une très bonne semaine et puis on vous laisse avec une pièce qui s'appelle Autumn Leaves d'un artiste anglais, d'un collectif d'artistes anglais appelés Cold Cut.
Déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Hey! salsa, reggae, compa, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukousse, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Hey!